Merci d'écouter RFI, il est 10h en temps universel et 11h ici à Paris. Et tout de suite, un nouveau journal avec Florent Guignard. Bonjour Florent.
Bonjour Charlie, bonjour à tous. Ah, bonjour à toutes et à tous. À la une de ce journal, la satisfaction affichée par la Russie et les États-Unis après le sommet d'hier en Arabie Saoudite. La France, elle organise aujourd'hui une nouvelle réunion avec des pays de l'OTAN. Également dans l'actualité, une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la guerre dans l'est du Congo, Kinshasa, aujourd'hui. Et puis la hausse des violences contre les personnes LGBT. Dans 10 minutes, vous retrouverez 8 milliards de voisins. Un pas très important, c'est la réaction officielle du Kremlin au lendemain de la rencontre entre les chefs des diplomaties de la Russie et des États-Unis en Arabie Saoudite. Un pas très important en vue d'un règlement pacifique du conflit en Ukraine, selon les mots de Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Hier soir, Donald Trump ne cachait pas non plus sa satisfaction, se disant confiant sur la fin de la guerre. Mais pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'exprime ce matin, on ne peut pas faire confiance aux menteurs pathologiques qui dirigent la Russie. Alors, sur la ligne de front, comment vit-on, comment voit-on les mouvements diplomatiques de ces derniers jours? Reportage de nos envoyés spéciaux Anastasia Bekio et Boris Vichit dans le Donbass, dans le secteur de Pokrovsk.
Les détonations sourdes des combats résonnent dans le village qui semble désert. Dans l'une des maisons, Nikita Ivanov, adjoint au commandant d'une unité mécanisée, a installé sa base arrière. Dans le séjour, transformé en bureau, un écran retransmet des images en direct du champ de bataille prises par des drones.
L'ennemi a mis une pression très forte à Pokrovsk avant la fin de l'année dernière. Maintenant, le tempo de leur offensive s'est un peu ralenti, mais ils restent très actifs et ils sont encore plus actifs dans la région de Koursk, parce que j'ai l'impression qu'ils tentent de nous chasser de là avant le début des négociations.
Ces pourparlers inquiètent Mikita et son ami Danilo, qui vient de rejoindre l'unité après avoir combattu dans la région russe de Koursk. Il redoute que l'armée ukrainienne se voit imposer un cessez-le-feu sans garantie de sécurité.
On veut tous que la guerre se termine, mais la question c'est à quelles conditions? Personne ne veut être la marionnette de quelqu'un. On entend beaucoup dans les informations que d'autres décideront pour nous. Ici, on considère que ça ne doit pas se passer comme ça. On ne peut pas mener des négociations avec notre agresseur dans notre dos.
Loin des tractations qui ont lieu à des milliers de kilomètres de là, les militaires retournent à leur tâche. À quelques kilomètres du village, la plaine enneigée est striée de profondes tranchées. Des ouvriers y déploient des rouleaux de barbelés. Le Donbass continue de se fortifier. Anastasia Bekio, Boris Vichit, Kramatorsk, RFI.
L'envoyé spécial de Donald Trump est arrivé ce matin à Kiev avec des propos qui se veulent rassurants pour l'Ukraine. Il évoque l'importance de la souveraineté ukrainienne et des garanties pour sa sécurité. Donald Trump, de son côté, se dit totalement favorable à la présence en Ukraine de troupes européennes pour faire respecter un éventuel accord de paix ou de cesser le feu. Les Européens, justement, ils continuent de s'organiser après le coup de semonce américain du week-end dernier, la marginalisation annoncée de l'Europe dans le règlement de cette histoire. Emmanuel Macron organise aujourd'hui une deuxième réunion à l'Élysée en présence de plusieurs autres pays européens ainsi que du Canada, membre de l'OTAN. Analyse du chercheur Ulrich Bouna.
Au-delà, effectivement, pour l'instant, des grands discours et des prises de position, on n'a pas de plan concret sur la table qui passerait par probablement par des investissements très lourds en termes de défense et aussi par la présence de troupes au sol en Ukraine. Et je pense que cette deuxième réunion vise un petit peu à répondre à certaines critiques. Je pense notamment à la critique des Tchèques et des Roumains qui sont pour le coup en première ligne pour les Roumains et qui sont aussi en première ligne côté tchèque pour la fourniture d'obus qu'ils achètent à l'étranger pour l'Ukraine. Et donc effectivement, ces pays-là avaient dit qu'ils trouvaient dommage d'avoir été un petit peu mis de côté. Donc je pense qu'il y a une volonté d'essayer de resserrer un peu les liens entre les différents pays soutiens de l'Ukraine et qui se trouvent dans l'OTAN, mais l'objectif global reste le même, c'est-à-dire d'arriver à des propositions concrètes pour envoyer des troupes au sol en Ukraine et garantir surtout le soutien à l'Ukraine sur le long terme et le renforcement de la sécurité en Europe pour arriver avec des propositions concrètes à soumettre à Donald Trump pour lui dire, quel que soit le résultat des discussions que vous aurez avec Moscou, nous voici nos positions et on n'en demandera pas.
Ulrich Bouna, chercheur associé chez Open Diplomatie avec Romain Lomaresquier. Et puis l'Union européenne vient d'annoncer un 16e paquet de sanctions contre la Russie. la guerre dans l'est du Congo. Kinshasa, au menu ce soir d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies face à l'avancée des rebelles du M23, appuyé par le Rwanda. L'ambassadeur du Rwanda à Londres a d'ailleurs été convoqué par le gouvernement britannique. Puis a signalé encore que l'armée ougandaise annonce le déploiement de troupes en RDC dans la ville de Bunia, au nord du Nord Kivu, dans la province de l'Ituri. En Afrique encore, au Sénégal, une grève de 48 heures dans les hôpitaux. Les médecins dénoncent le manque de moyens, le manque de personnel et de recrutement. Reportage de Léa-Lisa Westerhoff à l'hôpital de Fan à Dakar.
Des couloirs quasi vides. Dans le département de neurochirurgie de cet hôpital du centre-ville, seules les urgences sont assurées. Les médecins en grève, comme le professeur Mbaye Thioub, neurochirurgien, ils dénoncent une dégradation dangereuse des conditions de travail.
Moi, je suis surtout spécialisé dans le traitement des maladies neurovasculaires. Et aujourd'hui, même les clips pour traiter les anévrismes, voilà, on n'en a pas. On attend une commande qui n'arrive pas. Donc voilà, c'est une situation de précarité. Surtout, c'est une situation qui est d'insécurité.
Une situation de plus en plus fréquente, à en croire docteur Omar Guindo, médecin en santé publique au ministère de la Santé. Il cite l'exemple de la radiothérapie contre le cancer.
Actuellement, au Sénégal, il n'y a qu'une seule radiothérapie qui fonctionne pour le cancer. Il n'y en avait que deux. Celui dans le jam est en panne. Actuellement, c'est celui de Touba qui fonctionne. Il y a des rendez-vous jusqu'à 4-5 mois, vous imaginez? Il faut vraiment que l'État fasse des efforts dans ce sens-là.
Des efforts pour améliorer l'équipement des hôpitaux publics, mais aussi pour recruter, ce que l'État ne fait pas. Docteur Omar Guindo.
Ça fait 4 ans qu'on n'a pas eu de recrutement de jeunes médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes. Et alors qu'il y a un gap énorme, le besoin est là.
Un besoin estimé à 18 000 médecins pour les hôpitaux publics du pays. Des infrastructures de santé, là encore, en nombre insuffisant, selon le syndicat autonome des médecins, qui plaide pour une répartition plus équitable des soins sur l'ensemble du territoire et une réponse du gouvernement à ces doléances après 7 réunions avec les nouvelles autorités. Léa-Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
RFI, les 11h07 à Paris, de nouveaux droits de douane annoncés par Donald Trump. 25% de taxes supplémentaires prévues début avril pour les importations d'automobiles, de semi-conducteurs et de médicaments. À New York, le maire, toujours sous pression, Eric Adams, s'est inculpé dans une affaire de corruption malgré un rapprochement avec la nouvelle administration Trump. Son maintien en poste n'est pas assuré, RFI Washington, Guillaume Nodin.
Eric Adams l'affirme, il n'a jamais proposé d'utiliser son pouvoir de maire de New York en échange d'un abandon des poursuites contre lui. Pourtant, en fin de semaine dernière, il apparaissait à la télévision aux côtés de Tom Homan, le patron de la frontière dans l'administration Trump, en expliquant qu'il était prêt à apporter son aide au plan d'expulsion massive de migrants illégaux dans une ville censée les protéger. C'était un jour après que le ministère de la Justice avait demandé l'abandon des charges contre lui, entraînant la démission de plusieurs procureurs. Ce changement de pied, c'est ce que le juge en charge de l'affaire aimerait comprendre. Les représentants du ministère de la Justice sont convoqués ce mercredi pour l'expliquer, de même que les autres protagonistes de l'affaire. Pour l'administration Trump, ces poursuites sont motivées politiquement. C'est d'ailleurs ce qu'a laissé entendre le président, qui, s'il affirme ne pas avoir d'avis sur l'affaire, dit aussi qu'il en connaît un rayon en matière d'instrumentalisation de la justice, ce qui ressemble beaucoup à une marque de soutien. Les démocrates, dont est issu Eric Adams, maintiennent la pression. Le conseil municipal de New York appelle à sa démission et la gouverneure de l'État consulte pour savoir si, comme elle en a le pouvoir, elle doit démettre Eric Adams. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
On termine ce journal par la très forte augmentation des violences contre les personnes LGBT, homo, transgenres. Selon le rapport d'une ONG, augmentation en Europe et en Asie centrale, Lila Olkinura.
Une année 2024 qui marque un tournant dans les violences contre les personnes LGBTI, dans les écoles d'abord, où certains pays interdisent aux professeurs de parler d'identité de genre ou d'orientation sexuelle. En 2023, seule la Hongrie de Viktor Orban était concernée. Tout a changé l'année suivante pour Catherine Nugent-Doubel, directrice de plaidoyer pour l'ONG ILGA.
En 2024, la peur s'est généralisée. Des gouvernements encouragent les parents à dénoncer les professeurs. En Slovaquie, en raison de pressions externes, un événement en mémoire des victimes de l'attentat anti-LGBTI de 2022 a été annulé.
L'autre pan de cette flambée des violences, le ciblage systématique des droits des personnes trans, une stratégie de partis politiques européens de droite et d'extrême droite qui cache un autre objectif, si l'on en croit Catherine Nugent-Doubel.
Ces législations restrictives proposées ou adoptées sont un point d'entrée pour saper les droits fondamentaux et la démocratie.
Catherine Ougendoubel dénonce des législations dans la droite ligne des politiques mises en place en Russie.
C'est vraiment une tendance qui se propage dans la région. Je parlerai d'un agenda autoritaire qui cherche à limiter la pluralité et la diversité pour donner plus de pouvoir au gouvernement.
Face aux attaques contre les personnes LGBTI, l'ONG ILGA souligne le rôle essentiel des cours de justice nationale et européenne.
11h10 à Paris, c'est la fin de ce journal. Merci d'écouter RFI.